Bienvenue au bulletin audio de l'Observatoire québécois du loisir. Afin d'obtenir l'ensemble des références, des tableaux et des hyperliens de ce bulletin, nous vous invitons à consulter le bulletin écrit disponible gratuitement sur le site Internet de l'Observatoire québécois du loisir. Volume 20, numéro 11, 2023. Sauvegarder l'héritage de l'industrie du jeu vidéo, la prise en charge par la communauté des joueurs. Par Mathieu Perrault, étudiant à l'UQTR, agent de liaison avec l'industrie du jeu pour l'UQAT. Lu par Frédéric Ross. Mise en contexte. Ce bulletin a pour objectif l'analyse et la recension des moyens actuellement mis en place dans l'archivage des artefacts vidéoludiques d'hier et aujourd'hui. L'angle choisi pour cette analyse est celui de l'apport des communautés de joueurs dans la réalisation de cette mission de manière directe ou indirecte. Il met en lumière les différentes méthodes actuellement utilisées dans la sauvegarde des éléments physiques, des éléments artistiques et culturels et apporte une critique sur la qualité de chacune de ces formes d'archivage, tant sur leur force que sur leur imperfection. L'auteur espère ainsi présenter les loisirs vidéoludiques non seulement sous sa forme purement matérielle, mais bien comme un élément culturel et artistique méritant une sauvegarde et une protection au même titre que toute autre création artistique, avec les défis que représente la sauvegarde de cette forme d'art. Cet article espère sensibiliser les différents acteurs de l'industrie ainsi que les responsables des bibliothèques du Québec à la richesse culturelle que représentent ces différents artefacts vidéoludiques produits ici et ailleurs, notamment en leur donnant des pistes sur leur mise en valeur potentielle. Au même titre qu'un livre ou un tableau, ces créations numériques méritent d'être célébrées et protégées comme tous les éléments culturels au Québec. Ce bulletin a été réalisé dans le cadre du cours SLO 6083, Développement des communautés du programme de maîtrise en loisirs, culture et tourisme de l'UQTR. La sauvegarde de l'héritage de l'industrie du jeu vidéo, c'est-à-dire son archivage, représente un défi de taille comportant de multiples facettes. Contrairement à l'industrie musicale ou cinématographique qui, en général, repose sur un seul média ou format. Par exemple, le DVD Blu-ray pour les films ou le CD pour la musique peuvent être lus par un appareil unique comme un lecteur Blu-ray, une chaîne audio ou un ordinateur. Ce format ont également l'avantage de ne changer que très peu au fil des années, tout en étant facilement transférable en d'autres formats en raison de la simplicité du fichier. L'évolution du numérique a facilité les choses en ramenant chaque production à un simple fichier informatique qui peut être lu par un ordinateur ou en mode streamer sur l'une des nombreuses plateformes populaires telles que Spotify, Apple Music ou Google Play, pour n'en nommer que quelques-unes. C'est tout le contraire pour le jeu vidéo qui, lui, non seulement repose sur des supports médias qui varient d'une entreprise à l'autre et qui changent à chaque génération, mais se fonde sur les technologies complètement différentes d'un constructeur à l'autre. Sans oublier le périphérique de contrôle propre à chaque console de jeu qui évolue sensiblement ou considérablement à chaque génération. Ces contrôleurs créent à leur tour des façons d'expérimenter le jeu vidéo totalement différents d'un constructeur à l'autre. Ces caractéristiques technologiques rendent ainsi toute tentative de transférer les jeux vidéo d'ancienne génération difficilement réalisable sur les consoles de nouvelle ou prochaine génération. Et ce n'est là que la pointe de l'iceberg de la complexité que représente la sauvegarde des créations de l'industrie des jeux vidéo. Il faudrait également mentionner l'espace nécessaire pour conserver les différentes productions, les coûts d'entretien, l'obsolescence des vieux périphériques, les aspects juridiques qui s'appliquent aux œuvres, etc. Autant d'éléments complexes que de difficultés à surmonter pour rendre possible une réelle sauvegarde des trésors de cette industrie. Aussi, peut-on se demander, pouvons-nous réellement tout sauvegarder? Dans le cas contraire, sur quel aspect devrions-nous nous concentrer? Chapitre 1. La problématique. Le défi de la sauvegarde des produits de l'industrie du jeu est de taille. Pour ajouter au problème, il y a également urgence d'agir. Contrairement à d'autres formes artistiques bien protégées et préservées un peu partout, dans les différents musées du monde, les créations numériques, dont celles de l'industrie du jeu vidéo, disparaissent déjà. Tandis qu'il est toujours possible de voir des œuvres vieillies de plus de 500 ans, comme la Mona Lisa de Léonard de Vinci au musée du Louvre à Paris, nous assistons à la disparition totale de créations vidéoludiques à peine 10 ans après leur création. Il importe d'abord de réfléchir aux différentes formes que peut prendre la conservation des artefacts vidéoludiques. Une première piste de réponse se retrouve dans l'article « Digital Preservation Strategy, an Overview » de Chimré et Ramaya, 2018, qui présente les 4 grandes catégories de formes de préservation des données numériques. Malheureusement, ces catégories ne s'attardent qu'à la conservation des données en elles-mêmes, qui n'est qu'une seule des facettes de cette opération. Dans les cas des œuvres vidéoludiques, d'autres paramètres doivent être pris en compte. Dans Packaging Video Games for Long-Term Preservation, McDonough fait ressortir davantage cette complexité en analysant une multitude de jeux, anciens et récents, ce qui permet d'exposer d'autres facteurs problématiques pour leur préservation. Il constate notamment que la disponibilité des jeux, les versions, les supports médias, la jouabilité d'origine, la disponibilité des informations de représentation et les propriétés intellectuelles sont d'autres freins à l'archivage de ces œuvres. La conservation matérielle est certes un aspect majeur pour l'archivage, mais il y a un autre aspect important de l'équation, celui de la sauvegarde de l'intention artistique réelle des créateurs des œuvres vidéoludiques. Même si on arrive à sauvegarder les périphériques et les médias de jeu pour sa postérité, comment s'assurer que les expériences et les émotions véhiculées par le jeu ne seront pas dénaturées dans le processus? Même si on parvient à archiver un jeu comme le MMO, World of Warcraft, nous ne pourrons jamais répliquer les émotions véhiculées par sa constituante online et sociale due à son environnement Internet unique. En définitive, cette simulation restera partielle et fragmentaire. C'est là que la communauté très nombreuse des joueurs, notamment sur la scène du streaming et de l'Internet, peut jouer un rôle crucial représentant une partie de la réponse au défi de la sauvegarde des éléments vidéoludiques. Comme le mentionne l'historien de l'art Carl Terrien dans « La mémoire des jeux vidéo », la sauvegarde passe par des milliers de YouTubers qui sont en train de créer la seule trace réelle en vidéo d'une interaction entre un joueur et son jeu, tout en présentant les myriades d'émotions que ce dernier peut faire vivre. C'est cet apport de la communauté des joueurs à la sauvegarde de l'industrie que nous allons maintenant explorer. Chapitre 2. L'apport communautaire de la sauvegarde de l'industrie. Sans réellement s'en rendre compte, la communauté des joueurs participe à l'effort de sauvegarde de l'industrie. Que ce soit par l'entremise des milliers de streams de jeux vidéo publiés chaque jour sur des plateformes comme Twitch TV et YouTube, des sites internet, des regroupements de fans, des clubs de collectionneurs de jeux ou d'autres activités. Toutes ces initiatives représentent une pierre de plus ajoutée à un monument que représente la sauvegarde de l'industrie vidéoludique. L'archivage de l'expérience vidéoludique en vidéo. L'apport le plus évident des joueurs à la sauvegarde de l'industrie est sans conteste la multitude de vidéos produites quotidiennement sur les plateformes de streaming. Bien que le contenu sur ces plateformes soit souvent similaire, certains se spécialisent selon les communautés et publics visés. Par exemple, la plateforme Twitch.tv est reconnue pour la diffusion de vidéos de compétitions e-sport en direct, en plus d'offrir aux joueurs la possibilité de diffuser leurs séances de jeux libres facilement. La plateforme YouTube offre de son côté une plus grande quantité de vidéos préenregistrées, se concentrant sur la vulgarisation de différents aspects de l'industrie du jeu vidéo, développement de jeux, historique des franchises et présentation des collections prestigieuses. La chaîne YouTube Édouard Rétro Découverte présente notamment de façon humoristique une vulgarisation historique de plusieurs jeux rétro depuis maintenant près de 10 ans. Ces deux plateformes à elles seules abritent des millions d'heures de jeux aussi variés que les joueurs qui les expérimentent. On comprend pourquoi Carl Terrien mentionne qu'un gros volet de l'archivage passe par la communauté des joueurs. Les communautés des collectionneurs. Une grande méthode de préservation des jeux mentionnée dans plusieurs écrits réside dans les grandes collections privées et muséales ainsi que dans l'émulation. C'est un autre aspect dans lequel l'industrie du jeu et la communauté des joueurs excellent. Dans l'article « Le phénomène de collection », Ezan mentionne l'importance pour les commerçants de créer des pièces à collectionner dans leurs différents points de vente pour mettre en place et entretenir le système de lien commercial avec la clientèle. C'est quelque chose qui s'est implanté naturellement au début de l'industrie par des quantités limitées d'exemplaires de jeux dans les magasins et aujourd'hui par la difficulté de trouver ces mêmes jeux en bonne condition sur le marché des collectionneurs. L'industrie, comprenant la force de ce lien, s'est mise à créer plusieurs versions d'un même jeu, allant même jusqu'à produire des éditions de collection de prestige pour inciter certains joueurs à faire des achats multiples. Même aujourd'hui, à l'ère où la majorité des jeux se vendent en format numérique, on constate une recrudescence de ces tactiques dans ce qu'il reste des ventes physiques, ce qui aide indirectement à la préservation de certains titres. Les initiatives présentées jusque-là sont cependant d'ordre, pourrait-on dire, artisanal dans la communauté des joueurs. Cette communauté est néanmoins prise au sérieux par la Library of Congress, dont le programme Preserving Virtual Worlds vise à mettre en place un modèle de référence basé par Open Archival Information System, susceptible de favoriser un archivage plus complet et sérieux de cette industrie. Un avenir grâce à l'émulation. Pendant ce temps, d'autres choisissent la voie de l'émulation pour la sauvegarde des produits de l'industrie. Pour plusieurs, le défi de tout archiver est irréaliste, entre autres à cause de l'énorme travail que représente l'entretien des données numériques, lesquelles ne peuvent survivre sans l'intervention humaine. Certains passionnés du jeu vidéo travaillent pourtant à des solutions comme la très connue Multiple Arcade Machine Emulator. La particularité de cette dernière réside dans son objectif de développer un émulateur capable de copier le fonctionnement de plusieurs vieilles bornes d'arcade dans un souci d'archivage et de sauvegarde de l'industrie plus globale. C'est tout le contraire de ce que l'on voit plus fréquemment avec des émulateurs communs qui n'ont pour fonctionnement que de reproduire une seule console. Les artisans de cette dernière voient dans leur initiative une façon de conserver la plus intacte possible l'expérience du jeu sans les périphériques d'origine. Chapitre 3. Une question seulement matérielle? La grande majorité des articles recensés pour le présent travail parlent de l'aspect physique, technique et technologique que représente le défi de l'archivage vidéoludique. Cependant, un article s'est attardé à un autre aspect, souvent omis dans la plupart des recherches, le côté social, culturel et communautaire du jeu vidéo qui, lui, ne peut être aussi facilement archivé. C'est cette dimension qu'aborde Scroll dans Understanding the Expanded Notion of Video Games in Archival Objects. Scroll fait référence à un nouveau concept qu'il appelle the EN, et qui s'appuie sur l'importance de cataloguer aussi l'expérience du jeu, des communautés qui s'y adonnent, ainsi que l'activité elle-même. En somme, le jeu en lui-même n'est rien sans les émotions qu'il transmet aux joueurs. Ces émotions doivent être prises en considération dans le contexte de l'époque où le jeu est expérimenté et ensuite documenté pour en faire ressortir toutes les particularités. C'est d'autant plus évident quand on lit cet article de Taylor intitulé « Does WoW Change Everything ?» qui étudie l'interaction complexe et diverse entre des joueurs de plusieurs nationalités et l'angle dont le jeu World of Warcraft. Même si on en venait à archiver ce jeu lors de sa mise hors service, il serait impossible de répliquer les interactions, échanges et émotions que ce jeu suscitait durant sa vie officielle à un moment précis dans le temps. Cela nous conduit également au concept présenté par Nimrod et Adoni dans Conceptualizing e-Leisure, où l'aspect du temps, de l'activité pratiquée et de l'expérience vécue dans la pratique du loisir électronique sont des éléments importants pour sa compréhension et sa définition. L'archivage des jeux vidéo limité à sa seule sauvegarde de leur contenu ne peut être qu'un archivage imparfait et sans âme. Conclusion. Les articles et documents consultés pour ce travail ont beau indiquer plusieurs pistes pour l'archivage des jeux vidéo, il faut admettre que l'industrie elle-même n'est pas partie prenante de sa propre sauvegarde. Comme le mentionne Bugays, les créateurs eux-mêmes ne font que peu d'efforts ou pas d'efforts pour l'archivage de leur production. Au Québec, aucun studio de développement de jeux ne trouve le temps ou l'intérêt de s'attarder au problème de l'archivage. Actuellement, ce sont les communautés de joueurs, les universitaires et certains centres d'archivage ou des musées qui ont pris les choses en main. L'acteur principal de l'industrie, que constituent les éditeurs ou producteurs de jeux vidéo, auront à faire leur part pour que l'archivage de leur création se systématise et que des milliers d'œuvres produites chaque année soient sauvegardées de façon efficace et complète. Sinon, les situations comme celle qui se produira le 23 mai risquent de devenir la règle. À cette date, Nintendo fermera définitivement les boutiques de ses vieilles consoles Wii U et 3DS, condamnant des milliers de jeux numériques à tomber dans l'oubli du grand vide du cyberespace. C'était le bulletin audio de l'Observatoire québécois du loisir. volume 20, numéro 11, 2023. Afin d'obtenir l'ensemble des références, des tableaux et des hyperliens de ce bulletin, nous vous invitons à consulter le bulletin écrit, disponible gratuitement sur le site internet de l'Observatoire québécois du loisir.